7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, qui est la consommatrice africaine? Eh bien, dans 7 cas sur 10, en tout cas, celle que l'on appelle la ménagère décide des achats et de la gestion du budget de la famille, y compris de l'épargne. Nous allons en discuter avec nos invités qui sont aujourd'hui réunis à Paris sur le vaste sujet des femmes africaines, avec des entreprises qui sont désormais, bien sûr, dans la course pour séduire la fameuse consommatrice africaine. Bonjour, Florence de Bigot.
Bonjour.
Vous êtes directrice d'Ipsos Afrique francophone et vous êtes à l'initiative de cette conférence au musée d'Appert qui vient de s'achever, là, c'était ce matin.
Absolument.
Et qui témoigne bien de la vitalité, de la croissance du continent africain et puis de l'intérêt qu'il suscite, hein, évidemment, à l'extérieur. Un continent où, contrairement aux idées reçues, malgré un certain retard aussi en matière de droits des femmes, eh bien, les femmes occupent paradoxalement une place forte, centrale dans l'économie du continent, même si elles sont, c'est vrai, encore rarement propriétaires de la terre, par exemple. Soraya Djermoun est avec nous également. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de la communication du groupe Cévital, donc c'est le premier groupe privé agro-industriel algérien. C'est bien ça, vous vendez.
C'est le premier groupe privé.
C'est ça, c'est ce que je viens de dire.
Pas qu'uniquement agro-industriel, mais on est dans 10 métiers différents.
Le cœur de votre activité, c'est quand même de vendre des produits agroalimentaires.
C'est l'activité fondatrice du groupe, effectivement.
Rania Belkaya également avec nous, bonjour.
Bonjour.
Présidente cofondatrice de AfriMarket. C'est une plateforme de e-commerce africaine. Vous ambitionnez d'être le Amazon africain. Vous êtes pour le moment présent dans 4 pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Cameroun et bientôt le Mali ?
Exactement.
Et vous avez reçu aussi plusieurs prix, notamment celui de la jeune entreprise africaine de l'année décerné par le MEDEF. C'est le syndicat du patronat français. Le e-commerce, on le dit depuis pas mal de temps, promis un grand avenir sur le continent, qui est le continent qui possède le moins de magasins physiques sur toute la planète. Alors forcément, ça pourrait être un relais intéressant. Mais tout de même, le décollage du e-shopping n'est pas simple, vous allez nous en parler. Notamment parce que les femmes aussi possèdent encore moins que les hommes un compte en banque. Mais ce n'est pas le seul obstacle. Les consommatrices africaines sont au centre de la croissance du continent, mais, mesdames, on vous entend beaucoup trop peu sur nos antennes. Appelez-nous pour nous dire comment vous gérez le budget de la famille, quelles sont vos principales dépenses, est-ce que vous vous faites plaisir aussi avec, par exemple, des produits de beauté. La parole est donc aux reines d'Afrique aujourd'hui, au 33 1 84 22 71 71. Les voisins, vous avez aussi la parole, bien sûr. Dites-nous si vous êtes parfois en désaccord avec les achats de votre femme ou bien si vous lui faites totalement confiance. Et bien sûr, tous vos messages sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et sur Facebook, alors c'est un grand classique chez 7 milliards, on lance le sujet sur les consommatrices et ce sont les consommateurs qui répondent à la place des femmes. C'est comme ça chez nous. Abdoulaye nous écrit de Conakry en Guinée, il nous dit « Moi je suis 100% consommateur, je n'aime pas acheter du tissu pour l'amener chez mon tailleur, je vais au centre commercial, moins cher et parfois au lieu de laver mes vêtements portés une ou deux fois, hop, à la poubelle. » C'est une attitude. Ma femme, par contre, va toujours chez le tailleur et achète des tissus très chers. Ça me rend dingue. Bon, qui est le panier percé dans l'histoire ? Abdoulaye ou sa femme ? C'est à vous de trancher, les voisins et les voisines. Louis nous écrit de Douala, au Cameroun. Dans mon pays, les femmes sont plus attirées par les produits de seconde main qu'on peut acheter en friperie. On y trouve de tout, même des sous-vêtements. Les prix sont abordables et la qualité est vraiment pas mal. Les femmes achètent aussi beaucoup d'objets, d'électroménager, des ustensiles de cuisine. Également de seconde main, on en revient toujours au problème des produits qui sont chers, hein, Rania Belkaya, du fait qu'ils sont importés sur le continent africain.
Alors en effet, aujourd'hui, contrairement aux idées reçues, ce qu'on peut voir aujourd'hui à posteriori, en regardant sur nos 100 000 livraisons qu'on a effectuées l'année dernière dans nos différents pays, les femmes africaines sont plutôt à la recherche de qualité plutôt que de quantité. Je sais que je dis un peu le contraire qu'un de nos
auditeurs. Quand on n'a pas tout à fait les moyens, il vaut mieux acheter de seconde main un objet qui a l'air malgré tout de bonne qualité. Donc.
Alors, la femme africaine favorise la qualité du produit. À défaut d'aller optimiser son budget, prendre le produit moins cher, elle va s'orienter vers un produit de qualité. C'est pour ça que pour séduire cette femme africaine, dans une plateforme de e-commerce ou via du commerce électronique ou dans des centres, le facteur clé de succès, c'est de pouvoir lui proposer des produits qui répondent à sa demande au meilleur prix, mais aussi à la meilleure qualité.
Bon, alors dites-nous, quelle consommatrice vous êtes, les voisines? Appelez-nous tout de suite au 33 1 84 22 71 71. N'attendez surtout pas la fin de l'émission pour faire entendre votre voix.
7 milliards de voisins.
monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
Florence de Bigot, d'Ipsos Afrique francophone, qu'est-ce qui est en train de changer dans les modes de consommation en Afrique aujourd'hui à la lumière de vos enquêtes ?
Alors plusieurs choses. D'abord, c'est l'empilement des circuits de distribution utilisés par les femmes. Les femmes continuent à aller au marché pour chercher du prix, pour chercher de la fraîcheur, pour chercher aussi de la négociation, parce qu'il n'y a pas d'étiquette. Et puis, elles vont de plus en plus aussi dans les boutiques de proximité, et elles poussent de plus en plus la porte des supermarchés, pas seulement les classes moyennes, toutes les populations qu'on appelle, nous, access classe moyenne, aussi access middle class. Alors, elles font des courses plus sporadiques, le panier moyen n'est pas élevé, mais là, elles vont y découvrir du service, de l'ordre, ce qu'on appelle, nous, le merchandising, et puis des produits qui sont plus sûrs, des produits qui sont, en effet, Rania, plus qualitatifs.
Et bien emballés, avec des normes.
Plus emballés, avec des normes.
Alors, vos enquêtes portent, bien sûr, sur des femmes qui vivent dans les villes.
En majeure partie, oui. Les études qui nous sont commandées par les marques, les entreprises, sont plutôt sur la consommatrice urbaine, oui.
Donc, une consommatrice qui vit en ville. Alors, cette fameuse classe moyenne, elle s'étale de 150 à 300 millions de personnes, selon la façon dont on comptabilise, non ?
On est plus moins de 200 millions d'habitants.
Ouais, sur le continent
aujourd'hui,
africain.
Sur le continent d'habitants, pour cette classe moyenne. Ce qui fait, globalement, un potentiel intéressant parce que, oui, c'est une clientèle qui consomme en qualité, qui est une clientèle assez avertie, en fait. Hein, c'est une consommateur assez averti. En général, la consommatrice africaine, elle est méfiante. C'est pour ça qu'elle est fidèle aussi. Souvent, elle est fidèle par dépit, quelque part, par défaut. Donc, il faut la convaincre. Il faut la convaincre que cette nouvelle marque est intéressante, que c'est une marque qui est fiable, qui est solide.
Ouais.
Donc, ça, c'est tout le travail des marques.
Alors, justement, je vous pose la question, Soraya Djermoun, puisque vous êtes dans un groupe international. Est-ce qu'il y a une spécificité du continent pour les consommatrices africaines ?
Moi, je pense qu'il y a plusieurs portraits de la consommatrice africaine. C'est très pluriel, ça dépend à la fois de la région africaine et aussi il y a des spécificités par pays. Moi, je pense qu'il y a peut-être deux tendances qui sont valables pour le continent. Par exemple, pour les produits agroalimentaires de première nécessité, on prend l'huile, le sucre, le riz, le blé. Là, la consommatrice, elle va être plus regardante par rapport au prix. Parce qu'il faut optimiser le budget alimentaire.
Et que le foyer africain est un foyer où il y a beaucoup de monde.
Exactement. Et d'ailleurs, la consommation d'huile et de sucre ne fait que d'augmenter en Afrique. En revanche, pour tout ce qui est équipement électroménager, que ce soit le brun ou le blanc, là, les consommatrices, parce que c'est elles qui sont plutôt acheteuses...
Le brun ou le blanc, c'est-à-dire
Le brun, c'est tout ce qui est cuisson, chaud, voilà.
Il faut parler bien devant le micro, Florence.
Oui, le blanc, c'est des expressions très marketing.
Exact.
Donc, le blanc, c'est tout ce qui est l'équipement,
voilà, l'électroménager. On va essayer de ne pas jargonner, on est dans une émission grand public aujourd'hui.
De la cuisine, hein, c'est notre machine à laver, c'est notre frigidaire, c'est notre four à micro-ondes.
Là, pour ce type de produits, elles sont plus exigeantes. Elles regardent la fonctionnalité, la durabilité, l'innovation.
C'est très cher pour le budget d'un ménage africain d'acheter des biens d'électroménager.
Mais la classe moyenne plus quand même commence à s'intéresser. Et aussi, la féminisation de l'appareil économique en Afrique fait que les femmes ont besoin de se libérer, typiquement avec la machine à laver. Et là, les industriels, quand ils vont développer ce type de produit, il faut qu'ils s'adaptent au quotidien des Africains. Et par exemple, pour la machine à laver ou le téléviseur, il faut qu'il y ait une technologie qui permet de résister, par exemple, aux coupures d'électricité qui sont récurrentes en Afrique. Donc voilà, il y a à la fois plusieurs profils de consommatrices africaines et d'un secteur à l'autre, ça varie sensiblement.
La consommatrice africaine achète à crédit, comme par exemple sur le continent sud-américain, Florence de Bigot.
Alors, en Afrique du Nord, oui. Au Kenya, qui est un pays où les ménages classe moyenne sont en train de beaucoup s'endetter, ça va dépendre énormément de ce que propose le système bancaire. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, c'est un des freins identifiés au développement de la consommation des ménages. C'est-à-dire que les gens payent tout cash. Le monsieur, il va payer cash sa voiture second hand. Ouais. Et la dame aussi, elle va payer cash.
Ce qui n'est pas le cas sur le continent sud-américain, non. Où on va au supermarché, même pour acheter une salade, on peut la payer à crédit. Non, donc on ne paye pas tout de suite.
Non, très tout
souvent.
À fait. Il y a vraiment là deux pays qui se distinguent. Pour parler que de l'Afrique subsaharienne, c'est l'Afrique du Sud, bien sûr, et c'est le Kenya. Les autres pays aujourd'hui, très clairement, c'est un frein à l'équipement des ménages, bien sûr.
En substitution à ça, ce qu'on peut voir, en effet, c'est l'organisation de Tontine. La femme africaine s'organise dans des écosystèmes de femmes pour se rassembler, pour mettre une solution de substitution de ces crédits-là en organisant des Tontines. Chacune investit chaque mois et on voit qu'il y a également des hommes qui participent à ces Tontines via leurs femmes.
Effectivement, je confirme, c'est quelque chose qui est assez courant au Maghreb. Aussi.
En quoi la jeunesse du continent contribue au changement rapide, notamment pour les femmes ?
Très clairement, déjà, ne serait-ce que au niveau du digital. C'est-à-dire qu'on a maintenant 60% dans des pays, 60% des consommatrices qui ont moins de 25 ans. Et clairement, dans leur rapport à Internet, aux réseaux sociaux, elles s'informent mieux. Moi, je veux dire, nous, on fait beaucoup de store-check. On observe les consommatrices.
Beaucoup dans de
les, quoi ? Les store-check. Alors, ouais. On observe, on fait des relevés de prix, puis on fait aussi des observations dans les magasins, dans les supermarchés. Maintenant, on voit de plus en plus des consommatrices avec leur smartphone en train de prendre un produit et de regarder la composition des produits. Donc, on a forcément...
Ça, c'est très nouveau, ça.
Oui, c'est nouveau, mais c'est de plus en plus important.
C'est dû aussi au niveau d'instruction pour les femmes, qui n'est pas le même aujourd'hui qu'il était hier. Et donc, ce sont des consommatrices qui arrivent à comprendre ce qui est écrit sur le produit, qui peuvent comparer. Et donc, ils ont un petit peu ce logiciel de critique du produit.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Quelle consommatrice êtes-vous, madame ou mesdames, évidemment, on attend les témoignages des voisines, mais l'antenne est ouverte aussi aux voisins. Les femmes passent énormément de temps maintenant sur Internet, à regarder la télévision, à s'informer sur Internet. C'est pas seulement le degré d'instruction à l'école, c'est aussi le degré d'information. On va en parler avec vous, Rania Belkaya, puisque vous avez une plateforme et que vous ambitionnez d'être une vraie entreprise de e-commerce sur le continent africain.
Yann Blesse. N'approchez pas ma suite, baby love. Ouais, sexy banana, ouais, tu décides. Oh my love, oh my love. Feeling my love, feeling my love. N'approchez pas ma suite, baby love. Sexy banana, ouais, tu décides. Oh my love, oh my love. Est-ce que tu veux nier bras? Faut pas l'approcher de gars, c'est ma gueule. Feeling ma gueule. Est-ce que tu veux nier bras? Faut pas l'approcher de gars, c'est ma gueule. Feeling my gag, gag, gag. This man girl, are you them a wait for? And are you them a scared for? Fly to you, say them single, but them date for. Disappear like vapor. I don't know why. Every man them a run for the life, for the life. Blank. They won't come for rain, for rain. Mind you, no one gonna leave. And I saw them run from you. Love you till the end of time. Girl, with you is special time.
C'est ma girl, tout fat chez 7 milliards de voisins. Qui sont les consommatrices africaines ? À quoi ressemble cette fameuse consommatrice ? Elle est multiple, évidemment, d'un pays à l'autre, selon son âge, son niveau d'éducation, son budget surtout. Florence de Bigot de l'Institut Ipsos, il faut quand même bien rappeler le chiffre énorme, c'est-à-dire que les dépenses des consommatrices sur le continent africain, ce sont avant tout des dépenses pour l'alimentation.
Oui, bien sûr. Dans l'étude que nous venons de mener, on a un chiffre d'un peu plus de 40% des dépenses. Le premier poste de dépense à 40%, ça reste évidemment le food, hein, bien sûr. Après, tout ça, il faut le nuancer, parce que dès lors qu'on est sur des populations plus urbaines, sur des populations plus classe moyenne, le poste de consommation va se sophistiquer, ça va baisser.
Rania Belkaya, alors vous qui avez une plateforme donc pour du e-commerce, hein, dans 4 pays, est-ce qu'aujourd'hui on peut acheter de la alimentation via du e-commerce?
Tout à fait. Alors, le premier facteur pour répondre à un besoin africain aujourd'hui en Afrique de l'Ouest pour lancer une plateforme de e-commerce, c'est l'offre. Comment vous adressez cette clientèle? Comment vous la fidélisez? En proposant une large gamme de produits. Notamment, on est à l'approche du mois de Ramadan où les clients achètent beaucoup de paniers alimentaires. Et là, la clé, c'est d'avoir le bon produit, le même qu'on trouve au marché, au meilleur prix.
On peut acheter du riz sur Internet ?
On peut acheter du riz sur Internet, on peut acheter de l'huile sur Internet, du cube magie, des bidons
en Afrique,
des bidons d'huile dans nos pays, en tout cas sur notre plateforme. On fait également la livraison de produits frais jusqu'au dernier kilomètre et même à l'intérieur. Tout à l'heure, on parlait d'un phénomène
comment on paye ? Juste quand même, petite précision.
Alors, en effet, il y a deux types de paiements. Soit on peut payer à la livraison. Pour les personnes, on est dans une phase d'évangélisation du e-commerce en Afrique. Les gens ont besoin de nous faire confiance.
Donc en cash ?
Donc, paye en cash à la livraison. Mais on a quand même une majorité de nos clients qui payent via des portefeuilles de monnaie électronique, comme Orange Monnaie notamment.
Moi, il y a un chiffre qui a été présenté ce matin par Florence et qui m'a beaucoup parlé.
C'est à la conférence au musée d'Appert, c'est
exactement,
ça?
Exactement, qui est que 89% des femmes africaines sont décisionnaires ou co-décisionnaires des achats des ménages. Et ça, quand même, ça souligne une certaine révolution dans les tendances de consommation en Afrique et en particulier du rôle qu'aura la femme demain pour le développement de certains
secteurs. C'est dû à quoi, Florence de Bigot?
C'est dû aussi à la modernité qui s'installe sur le continent. Dans ce chiffre, d'ailleurs, il y avait un élément qui était intéressant, c'était le pourcentage à plus de 50% de la codécision. Ça, je trouvais qu'il était très intéressant. Et c'est ce qu'on voit bien dans les ménages urbains aujourd'hui. D'ailleurs, quel que soit le niveau de revenu, s'installe, je dirais, un phénomène nouveau. C'est le couple codécisionnaire, codécisionnaire des achats, codécisionnaire aussi en matière d'éducation, par exemple.
Donc, le couple consommateur est sur Internet. On est tout seul devant son écran quand on a l'impulsion, l'acte d'achat, Rania Belkaïa.
Alors, un chiffre assez intéressant qu'on observe sur notre plateforme, c'est que 73% de notre audience est féminine et 57% de nos clients sont des femmes. Donc, on comprend que la femme influence également les achats des personnes masculines sur notre site.
55% des Africaines déclarent passer plus de 2 heures par jour devant la télévision. Hein. 41% des internautes régulières passent plus de 2 heures par jour aussi sur Internet et surtout, évidemment, sur les réseaux sociaux. C'est ça la première source d'information pour avoir l'impression de bien consommer.
Alors effectivement, le numérique aujourd'hui, dans ces pays-là, se place comme un vecteur de communication. Il y a un élément qui est propre à la population africaine. On est tous sensibles au bouche à oreille. Comment ce bouche à oreille se translate d'un point de vue numérique? Grâce à des influenceurs qui vont nous donner leur avis. Donc la consommatrice africaine veut la qualité et veut être sûre qu'elle va avoir le meilleur prix au meilleur produit. C'est pour ça qu'elle va chercher de l'information sur Internet.
En l'occurrence, des influenceuses ou pas alors?
Des influenceuses, tout à fait. On a beaucoup d'influenceuses. La montée de leaders d'opinion africaines qui représentent leur continent et qui sont là pour nous donner les meilleures cartes.
Ouais, tout à fait, ça c'est vraiment important, c'est-à-dire le bouche à oreille traditionnel s'est digitalisé en quelque sorte. Une marque aujourd'hui qui veut se développer en Afrique, si elle n'a pas une stratégie digitale, c'est compliqué.
On pourrait dire la même chose partout.
Ah oui, mais c'est nouveau en Afrique, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est de voir quelque part le rattrapage. Parce qu'on est toujours en train de parler de singularité dès lors qu'on parle de l'Afrique. En l'occurrence, là, on a des consommatrices qui vont chercher de l'information sur Internet. Beaucoup de buzz, il y a des marques qui se font détruire sur Internet aujourd'hui en Afrique.
Y compris en Afrique.
Donc, y compris en Afrique.
Qui sont ces influenceuses? Alors, où vivent-elles? De quoi parlent-elles? Quel est leur poids?
C'est plutôt des femmes urbaines. En tout cas, pour le Maghreb, on a plus des femmes urbaines, instruites, francophones, qui ont aussi une tendance à parler anglais. Et c'est de jeunes leaders d'opinion sur le digital. Et là encore, ça connote une certaine révolution dans les tendances de consommation.
Et pour l'Afrique subsaharienne, il y a des pays comme ça qui produisent davantage d'influenceuses.
Oui, bien sûr.
Florence de Bigot.
Au Nigeria, vous avez des stars, des blogueuses, qui sont des blogueuses et blogueurs d'ailleurs, qui sont des stars en Afrique du Sud, bien sûr, en Tanzanie. D'ailleurs, intéressant, Samsung vient d'embaucher des influenceurs blogueurs célèbres dans les pays d'Afrique subsaharienne pour faire la communication de Samsung. Non, c'est des gens qui sont extrêmement écoutés, notamment qui ont des émissions digitales de cuisine qui cassent les marques.
Je confirme.
Voilà. Donc pour vous, évidemment, il faut arriver à être visible, vous, les marques. Hein,
Absolument. Aujourd'hui, par exemple, en Algérie, où la 3G a été lancée en 2013, ça fait 3 ans où on constate quand même un très grand intérêt et une conquête des entreprises sur le domaine du digital.
Vous restez avec nous juste après le flash. On parlera aussi de la beauté. Est-ce qu'il y a une différence entre l'Afrique anglophone et francophone dans la façon de s'occuper de soi et de consommer? Qui est cette fameuse consommatrice africaine? Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. À tout de suite.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. Qui est cette fameuse consommatrice africaine? Comment gère-t-elle le budget, son budget, le budget de la famille? Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 autour de la table. Florence de Bigot de l'Institut Ipsos Afrique francophone, Soraya Djermoun du groupe Cévital, premier groupe privé agro-industriel algérien, donc qui vend effectivement beaucoup de produits agroalimentaires, des produits de base aussi, et pas seulement des produits transformés, mais aussi de l'électroménager, vous nous en parliez. Rania Belkaya, fondatrice de Afri Market, donc une plateforme de shopping sur Internet, d'achat sur Internet. Et vous nous disiez d'ailleurs, à ma grande surprise, qu'on ne va pas seulement sur Internet pour acheter de l'informatique, mais que maintenant, il y a des changements qui arrivent, on peut aussi acheter, par exemple, du riz, des produits agroalimentaires. Alors bien sûr, ces produits agroalimentaires, l'alimentation, c'est l'essentiel du budget de la consommatrice africaine, 41% à peu près. Et puis il y a 13%. 13%, c'est pour se faire plaisir, pour soi-même. Je vous avais dit qu'on allait parler de la beauté. Est-ce qu'il y a une différence entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone, surtout pour cette consommatrice africaine, dans sa façon de concevoir la beauté, Florence de Bigot?
Ah oui, tout à fait. Il y a vraiment des zones géographiques et culturelles qui expriment des beautés différentes. On voit par exemple que vous avez une Afrique francophone qui est beaucoup plus dans une beauté préparée. Par exemple, il y a un chiffre qui était très, très clair dans nos sondages, c'était la différence entre l'Afrique anglophone qui se vivait plus comme la beauté avec des cheveux naturels versus l'Afrique francophone qui, elle, est beaucoup plus dans un cheveu travaillé, tressé.
Les chiffres sont incroyables là-dessus, on regarde votre étude. 68% des Kenyanes estiment qu'elles sont plus belles lorsqu'elles portent des coiffures naturelles, contre 3% des Ivoiriennes, 4% des Sénégalaises. Il y a vraiment des conceptions radicalement différentes de la beauté africaine.
C'est la pluralité de l'Afrique.
Oui, exactement.
En comparaison avec le Maghreb, c'est pas du tout les mêmes critères de beauté, c'est pas les mêmes critères de canon.
Qu'est-ce qu'on va trouver au Maghreb dans ces cas-là, en termes de consommation pour la beauté?
Ça va être plutôt le lissage des cheveux, ça va être plutôt le soin de la peau, ça va être plutôt le make-up, alors qu'effectivement en Afrique ça va être plutôt les cheveux artificiels, les extensions.
Et pas partout.
On n'a pas les mêmes cheveux au Maghreb et en Afrique subsaharienne. Oui. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons une voisine, Léa, 28 ans, qui nous appelle de Yaoundé. Bonjour Léa.
Bonjour Emmanuel.
Léa, vous travaillez dans les télécoms?
Ouais.
Alors racontez-nous, quelle consommatrice êtes-vous?
Alors, quelle consommatrice je suis? Je suis une consommatrice impulsive. Donc, là, il faut que j'avoue, c'est très, très grave. Je ne suis pas contente de ça, mais je n'ai pas trop le choix. Donc, c'est vrai que je fais plein d'achats sur les coups de tête et tout. Et en général, c'est lorsque le besoin se présente.
Oui.
Bon, maintenant, au niveau de l'épargne, j'ai mis en place un système sur mon compte qui me permet de d'éviter automatiquement mon compte courant pour virer dans un compte épargne pour pouvoir gérer cet aspect-là. Mais en dehors de ça, c'est en général sur des coups de tête. Maintenant, aujourd'hui, la consommatrice africaine, c'est une consommatrice qui est informative, qui n'a pas le temps, qui aimerait avoir des facilités. Alors, qu'est-ce que moi je fais? C'est que moi, je fais plein de courses en ligne.
Oui.
Parce qu'il y a beaucoup de sites de e-commerce qui se développe pas mal au Cameroun.
Ouais. Vous avez déjà acheté sur Afri Market ou pas?
Non, je n'ai pas acheté. En général, j'achète sur Jumia.
Oui, le concurrent. On a Rania Belkaya, de la patronne d'Afri Market, qui est dans le studio. Rania,
bonjour.
Peut-être un peu de communication quand même, parce qu'Afri Market...
Voilà, on lance au Cameroun, en effet, pour la clientèle. Nous, notre spécificité, c'est de servir et à la fois la clientèle diaspora qui réside en Europe, et également la clientèle locale.
Et on lance de manière très imminente
au Cameroun. Madame, vous allez pouvoir acheter les congélateurs, les achats de beauté et les meilleurs produits de qualité sur notre plateforme Afri Market.
Alors, vous nous disiez, je suis une consommatrice impulsive. Ça veut dire quoi? Donnez-nous des exemples, Léa.
Je peux me connecter, je vois par exemple un petit électroménager qui a l'air bien, qui a l'air rapide et tout. Si ça m'arrange, j'achète. Et puis il y a les gadgets high-tech et tout, les montres connectées, les clés USB avec de très grosses capacités. Ça, c'est des achats qu'il faut un peu, qui impliquent une certaine réflexion, mais que j'achète sur le coup parce que je craque.
Oui, vous craquez. Donc, et alors, on a compris, vous êtes impulsive et vous n'avez pas le temps, surtout.
Oui.
C'est ça, vous travaillez beaucoup, Léa ?
Énormément. Je suis en permanence sous pression. Là, je fais une exception pour RFI parce que vous êtes mes amis quand même.
Oui, je sais, on n'arrivait pas à vous joindre, vous étiez en réunion. Donc, effectivement, vous vivez dans un foyer de combien de personnes, Léa ?
Je suis seule.
C'est encore rare à Yaoundé ou pas tellement ?
Pas tellement. Je dirais pas tellement parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de femmes actives qui se prennent en charge et qui habitent toutes seules ou qui sont peut-être en couple mais choisissent d'être, d'avoir leur indépendance.
Par rapport à votre maman, qu'est-ce qui a changé, Léa, en tant que consommatrice ? Par rapport à votre maman, qu'est-ce qui a changé pour vous dans votre vie de consommatrice ?
Alors, par rapport à un moment, déjà, on en parlait. C'est déjà sur l'aspect high-tech, c'est absolument pas la même chose. Maintenant, au niveau aussi de l'indépendance, parce que forcément, maman, c'est pas une femme très active dans la vie, c'est une mère au foyer qui a d'autres problèmes, qui planifie par rapport à son foyer, par rapport aux besoins.
D'accord. Donc tout a changé entre votre mère et vous, en fait, hein, si j'ai bien compris.
En parlant
de Raya Djermoun, vous souhaitez prendre la parole. Restez en ligne,
justement,
Léa.
Justement, pour rebondir sur cette notion d'indépendance des femmes africaines, je vais refaire un petit clin d'œil à l'étude de Ipsos. Parmi les principales préoccupations des femmes africaines, l'indépendance financière concerne 72% des femmes. C'est énorme.
Et sur le continent, dans notre sondage, on voit bien quand même que 35% de ces femmes entre 20 et 55 ans sont célibataires aujourd'hui.
Léa, juste en deux mots, qu'est-ce que vous avez dit au Standard quand même que vous aviez pas mal de reproches à faire pour le commerce en ligne, que surtout vous êtes une femme pressée, impulsive, on a compris, hein, vous n'êtes pas comme votre maman qui planifiait beaucoup. Pourquoi c'est pas au point, à votre avis, encore ?
Déjà, il y a au niveau de la livraison. Les photos sur le site en ligne, ça ne représente pas toujours le produit qui est livré.
Ah,
maintenant,
d'accord.
Il y a les délais.
Oui.
On va vous dire, c'est 7 jours, le produit arrive peut-être 2 semaines après. Et souvent, le conditionnement n'est pas forcément exact. Parce que la dernière fois, j'ai commandé des ustensiles de cuisine. C'est arrivé, le carton était à moitié déchiré.
Ouais.
Il a fallu que j'emballe le tout. C'était pas présentable. Ouais. Il y a ce problème.
Mais vous avez le temps de cuisiner quand même, Léa, ou vous achetez surtout des produits transformés ?
Absolument pas.
Ah, vous n'avez pas le... D'accord, vous achetez des ustensiles de cuisine, mais vous n'avez pas le temps de cuisiner. C'est comme les Américaines, en fait.
Oui. Ils font très bien dans ma cuisine.
Merci beaucoup de nous avoir appelés. Merci Léa, on ne va pas vous déranger plus longtemps. En tout cas, merci de nous avoir appelés. C'est sympa, une voisine de Yaoundé. Vous pouvez retourner en réunion. Nous accueillons Monique qui nous appelle de Conakry, en Guinée-Conakry. Bonjour Monique.
Bonjour Emmanuel.
Monique, vous avez 34 ans, on vous écoute.
Oui, par rapport à votre thème, je dis que moi personnellement, mes dépenses principales vont dans des produits frais. En fait, c'est pour faire manger la famille. J'ai 2 enfants, mon mari. Et donc, je veille vraiment sur ce que je dépense parce que manger, ça coûte cher déjà. Et actuellement, à Conakry, on a l'avantage d'avoir quand même une petite amélioration dans le domaine de l'électricité. Donc, si vous faites vos courses pour 1 semaine, 2 semaines, vous les conservez au frigo, c'est plus économique. Et je préfère acheter sur le marché. En fait, vraiment un marché à l'africaine que d'aller acheter sur les grandes surfaces parce que ça revient plus cher.
C'est intéressant parce que certains de nos internautes qui ont posté des messages disaient qu'au contraire, maintenant, c'était moins cher dans les supermarchés. Alors, vous vous êtes fait votre idée, j'imagine. Pour vous, non. Et qu'est-ce qui est le plus important pour vous en tant que consommatrice ? Est-ce que vous êtes d'abord, vous êtes la vraie décisionnaire dans le foyer ou votre mari a droit à la parole ?
Oui, bon, il a droit à la parole par rapport à ce qu'il aime manger, ce qu'il veut bien. Donc, j'en prends compte, mais ce n'est pas lui qui fait les courses.
D'accord. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Qui veut réagir, Rania Belkaya ?
Mais effectivement, c'est très intéressant ces témoignages parce que ça rappelle aussi que ce qui est important pour la consommatrice africaine, c'est les produits de qualité. Donc, avoir une plateforme de e-commerce
où on a plusieurs produits avec une qualité service dégradée, ça répond pas forcément aux besoins de la consommatrice africaine. Elle veut pouvoir y trouver les produits high-tech, les derniers cris, et ça c'est des achats d'impulsion. On voit aussi que les cycles de vie sur ces produits-là, les cycles d'achat sont très courts sur notre plateforme. Entre la visualisation du produit et l'achat, c'est un cycle très court, alors que sur des produits électroménagers qui vont répondre aux besoins de tout le foyer, là on est sur des achats un peu plus longs, parce qu'on pense que derrière ça, il y a une consultation du foyer et que c'est pas simplement un achat d'impulsion.
Les foyers africains, Florence de Bigot, sont encore sous-équipés en électroménager. Je pense notamment, pas tellement à la machine à laver le linge par exemple, parce que les foyers sont aidés, il y a des personnes qui viennent les aider, des dames de maison, et c'est même parfois souvent mal vu de s'équiper parce que ça supprime un emploi aussi de lingère. Mais par exemple, pour le réfrigérateur, on le sait, sur d'autres continents, ça a beaucoup modifié les habitudes alimentaires d'avoir un réfrigérateur chez soi.
Oui, tout à fait. Alors, dans les villes, les grandes villes africaines, aujourd'hui, sur les catégories classe moyenne, ou même ce qu'on appelle, nous, les catégories d'accès classe moyenne, le taux d'équipement réfrigérateur a quand même pas mal progressé. Cela dit, il y a toujours les problèmes de coupure d'électricité qui font que des fois, le réfrigérateur, ça devient une armoire, une armoire à stocker. Ouais.
Est-ce que justement, il faut aujourd'hui penser, est-ce qu'il y a des produits en électroménager qui sont pensés pour être plus résistants aux coupures d'électricité? Je pense notamment
Les téléviseurs, très clairement.
C'est le cas dans ceux que vous fabriquez chez vous ou pas? Vous fabriquez des téléviseurs?
Oui, Civitel a une filiale qui s'appelle Brandt, qui est un groupe français qui a été racheté en 2014. Donc effectivement, dans cette perspective d'exporter... en Afrique, il y a toutes ces réflexions. Mais sur quoi je voulais rebondir, c'est par rapport au taux d'équipement. Au Maghreb, le taux d'équipement en réfrigérateur, téléviseur est très très important. Il dépasse, je crois, les 80%. Et le taux d'équipement pour tout ce qui est machine à laver, là aussi, dépasse les 50 à 55%. Donc il y a un contraste entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne sur ce secteur.
On n'a pas encore parlé, j'aimerais bien qu'on achève notre discussion là-dessus, la place des rumeurs, parce que c'est vrai qu'il y a toujours eu des rumeurs dans les villes, mais sur la consommation, avec l'importance des réseaux sociaux, ça prend une importance incroyable. Tout récemment, la rumeur du riz chinois en plastique est revenue à la surface, Florence de Bigot.
Oui, c'est très important. Aujourd'hui, en Afrique, les gens sont vraiment très inquiets de ce qu'ils mangent. Parce que la naturalité des produits, c'est quelque chose de très fort. Donc, il y a cette tension à la ménagère, on l'a compris. Elle veut aussi de la praticité, de la convenience. Donc, elle cherche des produits processés. Et pour autant...
Transformés, donc.
Oui,
hein,
voilà,
tout à
fait.
À l'emploi,
et elle cherche, évidemment, elle cherche aussi à garantir, en gros, la gardienne de la bonne santé de sa famille. Et parce que l'Afrique est aujourd'hui un marché ouvert, il y a beaucoup de produits qui viennent de partout, qui ne sont pas forcément contrôlés, et les rumeurs vont vite, et notamment via les réseaux sociaux, les rumeurs vont vite sur le poulet brésilien plein de bactéries, sur la pâte
sur la rumeur du riz chinois en plastique, évidemment, rien n'a été démontré ni avéré. On ne sait pas si c'est une espèce de... On a pensé une théorie du complot, de la conspiration industrielle, ça témoigne effectivement de l'anxiété des consommateurs africains, voire aussi parfois d'une certaine méfiance par rapport aux produits chinois qui, en même temps, paradoxalement, ont tout à fait inondé le marché africain.
Oui, alors ça, c'est vrai que les produits asiatiques, on va dire que les consommatrices vont être plus méfiantes parce qu'il n'y a pas quand même cette aura de garantie de contrôle qu'ont les produits européens. Mais de manière générale, il y a la tension, c'est-à-dire on cherche de la praticité, donc on est intéressé par ces produits industriels, alimentaires, mais à côté de ça, on cherche aujourd'hui quand même à développer des relations avec des marques de confiance au niveau de l'alimentaire et des marques qui vont quand même davantage garantir la sécurité alimentaire, et gérer la naturalité, c'est-à-dire des produits qui sont plus proches de l'ingrédient.
Qu'est-ce qui est le plus difficile pour une entreprise aujourd'hui qui veut vendre ses produits ou ses services, comme c'est le cas pour vous, Rania Belkaya, sur l'Internet, en Afrique subsaharienne?
Alors juste peut-être pour rebondir sur les informations, effectivement, des fois, il y a des fausses informations qui vont circuler via les réseaux sociaux. C'est leur force, mais aussi la faiblesse. Et contrairement aux idées reçues, il faut juste choisir des fournisseurs de qualité. Il y a du contrôle d'hygiène et du contrôle qualité en Afrique. Donc ça existe. Après, effectivement, c'est plutôt simple de faire tourner une information info ou un top. Après, il faut vraiment savoir où se positionner.
Pour développer le e-commerce, alors alors pour
Alors,
vous
pour développer le e-commerce, pour nous aujourd'hui en Afrique, c'est l'offre. Il faut avoir une offre large, pouvoir proposer du high-tech, de l'électroménager, de l'alimentaire, du riz, du magie, pouvoir proposer tout ça, des moutons pour la tabaski, des paniers ramadan, un bœuf pour le grand magal.
Vous nous donnez le vertige là.
Et tous ces produits
tout
doivent
ça
être
livrés, sachant que les gens ne sont pas bancarisés et qu'il n'y a pas d'adresse.
Effectivement, donc c'est la complexité et le challenge pour opérer un e-commerce en Afrique. C'est la logistique. La logistique, au départ, je ne vous cache pas qu'avant de se positionner en tant que leader, on a commencé à passer par des acteurs locaux. Aucun n'était capable de nous dire où était notre produit à chaque instant. On a développé notre propre flotte logistique, décentralisée, et avec 40% de nos commandes qui sont livrées à l'intérieur. Donc ça aussi, c'est un élément, je pense, géographique. La classe moyenne n'est pas exclusivement dans les capitales.
Eh bien, écoutez, on en sait un petit peu plus sur cette fameuse classe moyenne et cette fameuse consommatrice africaine. Merci à toutes les trois, Florence de Bigot d'Ipsos Afrique francophone, Soraya Djermoun du groupe Cévital et Rania Belkaya d'Afri Market. Bonne chance aussi à vous pour vos entreprises. Les principales préoccupations des femmes africaines, vous l'avez dit d'ailleurs Florence de Bigot, c'est l'indépendance financière. Hein. Et puis il y a aussi les inégalités hommes-femmes et également l'éducation des filles. Alors justement, je voulais vous en reparler. RFI organise avec 7 milliards de voisins le concours RFI Challenge App pour l'éducation des filles. Donc si vous avez un projet innovant d'une application pour smartphone pour aider les filles à réussir à l'école en Afrique francophone, eh bien je vous le rappelle, vous avez jusqu'à fin juin pour participer à RFI Challenge App et peut-être gagner de quoi lancer votre projet. Le gagnant, la gagnante bénéficiera d'une aide financière et ça c'est important quand on lance son entreprise, n'est-ce pas Rania?
En effet.
D'un accompagnement, parce qu'on croit nous au développement de l'internet citoyen, parce que nous sommes aussi tous concernés par la scolarisation des filles qui rencontrent encore trop peu d'obstacles pour aller à l'école, trop d'obstacles. Alors lancez-vous, les voisines, les voisins, je vous donne le site pour vous inscrire et nous parler de votre projet appafrique.rfi.fr. Tout est noté bien sûr sur notre page. 7 milliards de voisins. Dans quelques instants, on donne la parole à Assa Traoré pour un tout autre sujet. Elle a perdu son frère Adama, 24 ans, en juillet 2016, mort dans la cour de la gendarmerie dans le Val-d'Oise, en région parisienne. Mais tout de suite, nous laissons la place à une voix nigériane. Yemi Alade, c'est Ferrari. Qui chante Ferrari, elle est nigériane chez 7 milliards de voisins. Lettre à Adama, c'est le titre du livre d'Assa Traoré qui sort aujourd'hui même aux éditions du Seuil. C'est le cri d'une sœur qui a perdu son frère Adama, 24 ans, le 19 juillet 2016. Il est mort dans la cour de la gendarmerie de Persan dans le Val d'Oise, en région parisienne. Main menottée dans le dos, face contre terre, asphyxiée. Pour sa famille, c'est une bavure policière de plus dans le paysage français. L'enquête est pour le moment toujours en en cours et les trois juges en charge de l'affaire s'exprimeront dans quelques mois. En attendant, ses proches n'entendent pas faire oublier le nom d'Adama. Alice Milo a rencontré sa sœur Assa Traoré.
Le 19 juillet, Adama, le jour de son anniversaire, est retrouvé mort dans des conditions atroces dans les locaux de la gendarmerie. Donc tout commence dans le centre-ville de Beaumont-sur-Oise où Baggy, son frère, subissait un contrôle d'identité. Adama passait par là en vélo et quand il voit ces gendarmes, Adama décide de prendre la fuite, de partir. Et je tiens à préciser que ce jour-là, au matin même, la mairie de Champagne nous contacte, appelle au domicile pour qu'Adama puisse venir récupérer sa pièce d'identité qu'il avait fait renouveler. Adama n'a malheureusement pas eu le temps d'aller la chercher. Donc quand il voit ces gendarmes et qu'il n'a pas sa pièce d'identité et qu'il connaît la hauteur de la violence de ses forces de l'ordre, il décide de partir.
Il s'enfuit parce qu'il sait qu'à partir de ce moment-là, il va forcément avoir des problèmes.
Bien sûr qu'il le sait parce qu'il faut savoir que dans ces quartiers, la pression et la répression que subissent ces jeunes-là avec ces forces de l'ordre est quelque chose de très fréquent, de très lourd. Ils peuvent se faire contrôler 5 fois dans la même journée par les mêmes gendarmes. Et ça, je pense qu'à ce jour-là, Adama ne voulait pas de ça. Adama n'est pas le premier à avoir couru. Il y en a qui ont couru avant lui. Ziad et Bouna ont couru. D'autres, la liste est longue.
Vous faites référence aux deux jeunes de Clichy-sous-Bois. Hein.
Oui, c'est ça.
En octobre 2005. Hein.
Ouais. Pourquoi ces jeunes courent-ils ? Pourquoi face à ces forces de l'ordre ? Et pourquoi ça finit toujours par la mort ? Ensuite, Adama va dans un appartement d'une personne qu'il connaît. Et les gendarmes vont arriver dans cet appartement-là. Adama va subir ce plaquage ventral. Cette technique d'immobilisation interdite dans plusieurs pays, dont la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne et aux États-Unis et d'autres pays. Mais aujourd'hui, la France continue à l'exercer. Il faut savoir qu'à plus de 90% des cas, elle emmène à la mort.
Adama se réfugie dans cet appartement et là, les militaires rentrent et ils s'assoient sur lui pour l'immobiliser, c'est ça ?
Ce sont des militaires. Adama a porté sur lui, en tout cas, le poids de 3 personnes, plus de 250 kilos, sans compter le lourd armement qu'ils ont sur eux. Adama leur dit « j'ai du mal à respirer », mais ils continuent cette immobilisation-là, ce plaquage ventral. Ils ne vont pas l'emmener à l'hôpital, mais ils décident de l'emmener à plus de 5 minutes en voiture dans cette gendarmerie à Persan. Adama va piquer de la tête, Adama va uriner sur lui dans cette gendarmerie à Persan, où ils vont nous dire qu'ils ont apporté les premiers soins à Adama. Et nous, on sait que ce n'est pas vrai. Donc plus tard dans l'enquête, 2 mois après, nous avons les déclarations du pompier qui vont nous ramener une lumière sur la vérité. Et le rapport du pompier va dire qu'Adama n'était pas en position latérale. Adama était sur le sol, les menottes encore aux mains. Il demande aux gendarmes d'enlever les menottes. À 2 reprises, il insiste. Ils vont dire « on va tenter de sauver ce jeune homme qui n'a subi aucun soin de la part de ses militaires ». Adama est interpellé aux alentours de 17h. Un de mes frères est contacté, on lui dit « Samba, ton frère a fait une crise, il est à l'hôpital ». Donc tout de suite, mon frère et ma mère se rendent à l'hôpital de Beaumont. Ils cherchent Adama, il n'y a pas d'Adama. Ils appellent les pompiers. Et les pompiers vont les transférer tout de suite à la gendarmerie. Et tout de suite, ils se disent « il y a un problème ». Ils vont se rendre dans cette gendarmerie aux alentours de 21h. Ma mère demande aux gendarmes « est-ce que mon fils est là ?»« Oui, madame, votre fils est là. J'ai entendu dire qu'il avait fait une crise ». Non, non, madame, votre fils va très bien. Elle dit, je veux le voir pour m'en assurer. Non, madame, vous ne pouvez pas rentrer, il fait tard. Elle dit, s'il arrive quelque chose à mon fils, je porterai plainte contre vous. Ils vont faire rentrer un de mes frères et ma mère et ils vont lui dire, on va vous dire quelque chose. J'espère que vous n'allez pas mal le prendre. Et c'est comme ça que ma mère et mon frère vont apprendre la mort de Adama. Mon frère en colère va sauter au sol, les gendarmes vont venir sur lui, ils vont le taper, ils vont gazer ma mère, mon frère, ils vont les mettre à la porte.
Dans les jours qui suivent, la police s'exprime, se justifie. Comment est-ce qu'ils expliquent la situation ?
Que Adama s'est débattu, que Adama est un voyou, que c'est une affaire d'extorsion de fonds. On va tout entendre. Ensuite, nous avons ce procureur qui va nous dire que Adama est un toxicomane, est un drogué. Nous connaissons Adama très très bien. Adama ne boit pas d'alcool. Adama ne fume pas. Adama est un sportif. Adama, c'était un jeune garçon qui avait 24 ans, qui aimait voyager, qui avait un bel avenir devant lui. Il travaillait, il était dans une boîte d'intérim et dans le bâtiment, il a toujours travaillé. On ne veut pas les laisser écrire notre histoire, l'histoire d'Adama. L'histoire d'Adama est écrite par nous. L'histoire d'Adama doit être connue par tout le monde et on doit dénoncer ce système. C'est tout un système qu'il faut changer entre ces citoyens et ces forces de l'ordre, la façon dont ils sont formés, leur approche au niveau des jeunes. Pour moi, c'est un problème de formation. Je pense qu'ils sont formés à, quand ils viennent dans ces quartiers, foncez dedans, entraînez-vous, défoulez-vous. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les forces de l'ordre, on les voit comme une menace. On ne devrait pas les voir comme ça. On a eu un soutien énorme et impressionnant. Tout de suite, la France est venue à nos côtés. La mort de Adama a réveillé quelque chose en chacun de ces Français. Tout de suite, la première marche, on était plus de 8000 personnes. J'espère que ces trois gendarmes seront condamnés à la hauteur de leur crime. On se battra pour ça. Et on veut que cette technique d'immobilisation mortelle soit interdite en France. Ces jeunes-là ont une place à prendre dans la société. Ils ont une place qu'on leur a enlevée et qu'on doit leur redonner.
Lettre à Adama, c'est signé d'Assa Traoré, c'est publié aux éditions du Seuil. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Camille Néran, Hugo Violas, Thomas Trochot. Demain, 7 milliards de voisins, nous parlerons éducation comme chaque vendredi. Un débat sur les études de médecine en France. Pourquoi sont-elles si stressantes? Les concours ultra sélectifs produisent-ils de meilleurs médecins que chez les voisins? Eh bien sûr, vous pouvez participer à l'émission en nous appelant dès maintenant, si vous le souhaitez, au 33 1 84 22 71 71, tous vos messages également sur les réseaux sociaux. Et puis je vous redonne les coordonnées pour participer au concours RFI Challenge App. Si vous avez donc un projet innovant d'une application pour smartphone pour aider les filles à réussir à l'école en Afrique francophone, vous savez que ce concours, on le porte avec beaucoup de force chez 7 milliards de voisins. Vous pouvez donc vous lancer, nous écrire sur le site appafrique.rfi.fr. Je le rappelle, le gagnant ou la gagnante bénéficiera, le meilleur projet bénéficiera d'une aide financière et d'un accompagnement. Voilà, c'est un beau projet de l'internet citoyen. Je vous dis à demain les voisins et les voisines. On se retrouve même heure, même endroit. Dans quelques secondes, ce sera le journal sur RFI. À demain, merci de votre fidélité.